France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Emmanuel Morse-Duncan, Manuel Rose et Olivier Dehay. Voici une émission que nous allons consacrer à l'un des plus grands chefs d'orchestre de tous les temps, le néerlandais Willem Mengelberg, né il y a 150 ans à Utrecht le 28 mars 1871, étudiant au conservatoire de Cologne, avant d'obtenir en 1895 le poste de sa vie. À l'âge de 24 ans, il devient directeur musical de l'orchestre du Concertgebouw Amsterdam, qu'il va mener pendant un demi-siècle, jusqu'en 1945, date de son éviction du monde musical, en raison de ses accointances avec les autorités nazies. Mengelberg meurt en mars 1951 en exil en Suisse et il nous reste lui des enregistrements des années 20 et des années 30 qui témoignent de son travail non seulement à Amsterdam mais également à New York, à Vienne ou également à Paris. On entendra les archives de l'époque 39-45. Mais tout d'abord voici Mengelberg chez lui au sein de son orchestre, de cet orchestre qu'il a dirigé devant un nombreux public et devant des immenses compositeurs comme Richard Strauss qui lui a dédié une partition qu'on écoutera tout à l'heure, ou comme Gustav Mahler qui à partir de 1902 va tisser des liens très forts avec Mengelberg. Voici un extrait du célèbre célèbre Adagietto de la célèbre 5e symphonie de Mahler dans un style d'époque avec des portamento, autrement dit des glissandis de cordes assez savoureuses et qui sont très datées, mais surtout un son de l'orchestre du Concertgebouw qui témoigne de cet âge d'or avec Willem Mengelberg sur France Musique.
Thank you.
C'est en 1922 que Gustav Mahler avait rencontré Wilhelm Mengelberg et tous les deux avaient tissé tout de suite une forte amitié. Mahler avait été invité l'année suivante à diriger à Amsterdam sa troisième symphonie, en 1904 sa quatrième, et puis le nom de Gustav Mahler sera depuis régulièrement inscrit au répertoire du Concertgebouw d'Amsterdam grâce à Wilhelm Mengelberg qui va en 1920 diriger l'intégralité des symphonies de Gustav Mahler. Il dirigeait ici en mai 1926 la cinquième symphonie dont c'était l'Adagietto. Voici ce qu'écrivait André Tuboeuf au sujet de Mengelberg, je cite, « Candide, despote et illuminé. Par le visage, la stature, la rondeur, ce pourrait être un maître chanteur du Nuremberg. Il devait lui ressembler aussi ces larges bourgeois d'Amsterdam qui se sont cotisés pour que la musique chez eux et sa maison, le Concertgebouw, le métier rayonne jusque dans le sourire, le métier tout le temps et jusqu'au bout des doigts, 20 fois sur le métier remettre son ouvrage. Ce ne sont là ni les manières ni les vertus de notre siècle péremptoire et pressé. Mengelberg croyait à la musique comme à une pratique qui demande tout le temps, comme à un patrimoine qui demande toute l'âme. Il fut de musique comme les terriens sont de terre, passionnément attaché au domaine, gardien jaloux. Il ne craignait pas l'envahisseur armé, il craignait le temps qui, après l'arbre, fait pousser aussi l'assèchement, la décadence, l'oubli. Citadelle, ma patrie, je te sauverai des projets de sable, écrivait Saint-Exupéry, et rajoutant, et je tornerai de clairon contre les barbares. La citadelle de Mengelberg, ce fut le Concertgebouw, qu'il dirigea en maître de maison amoureux et impérieux, 50 ans, et aussi la musique allemande, corps auguste dont il ne se séparera jamais, même au temps de son excommunication, Mahler. En juin 44, sourd à l'histoire, il dirigeait encore Beethoven à Paris, après quoi il partit pour son chalet en Suisse. La paix y fit prisonnier de son propre exil, du banni de fait, la haute cour fit un banni de droit. Il mourut là-bas en Suisse, à la veille de la fin de sa peine. La peine, ce cœur de toute façon était brisé. En 7 ans, la privation de cette respiration essentielle qu'était pour lui la musique avait fait de lui un mort-vivant. Fin de citation. André Tuboeuf cite les maîtres chanteurs de Nuremberg. Eh bien, c'est justement ce que je vous propose d'entendre, toujours avec le même orchestre et le même chef, l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé par Wilhelm Mengelberg, la musique de Richard Wagner sur France Musique. 3 novembre 1940. Willem Ben Gelberg dirigeait l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam dans le prélude des maîtres chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner. 3 novembre 1940, l'Allemagne nazie avait envahi la Hollande depuis 6 mois, les Pays-Bas, qui s'étaient rendus en mai 1940. Et on dit que Ben Gelberg avait porté un toast justement à la victoire allemande au nom des liens, je cite, entre son pays et cette terre germanique.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
C'est vraiment la partie sombre de l'histoire de Willem Mengelberg, mais c'est une histoire qui est beaucoup plus vaste que cette période 40-45 qu'il faut bien sûr rappeler et souligner. L'histoire de Mengelberg commence à la fin du 19e siècle avec des amitiés comme celle de Richard Strauss. Bien des compositeurs ont témoigné de leur admiration pour Mengelberg. Je parlais de Gustav Mahler, il y eut Rachmaninov qui en 1913 avait dédié la cantate Les cloche à Mengelberg et au Concertgebouw. En 1939, Zoltán Kodály leur dédie ses variations sur l'air du Pan. Mais dès 1898, Mengelberg, qui est en poste que depuis 3 ans à Amsterdam, il n'a que 27 ans, dès 1898, il reçoit une prestigieuse dédicace, celle de Richard Strauss, qui lui dédie son vaste poème symphonique, Une vie de héros, Ein Heldenleben. Nous allons écouter le final avec cette fois-ci l'orchestre philharmonique de New York, puisque Mengelberg était invité là-bas, mais il avait en poche cette partition qui lui appartient en quelque sorte, en tout cas qui lui est dédiée. L'opus 40 de Richard Strauss à New York, dirigé par Mengelberg. Voici Retrait du monde du héros et son accomplissement.
Thank you.
décembre 1928, Wilhelm Mengelberg, qui était un des artistes les plus acclamés au monde, était accueilli à New York pour diriger l'Orchestre Philharmonique de New York dans cette partition que Richard Strauss lui avait dédiée 30 ans auparavant, Une vie de héros, Ein Heldenleben, opus 40, dont nous écoutions la conclusion. Pendant cet hiver 28-29, on va enregistrer plusieurs sessions avec l'Orchestre Philharmonique de New York et Wilhelm Mengelberg, et par exemple de la musique française avec le Rouet d'Omphale de Camille Saint-Saëns. Cette année 2021 marque le centenaire de la mort du compositeur du Carnaval des Animaux, et je vous attends cet été tous les samedis de juillet et août pour une série d'émissions réalisées avec la collaboration de Céline Parfenoff intitulée Le Carnaval de Monsieur Saint-Saëns. On écoutera notamment le Rouet d'Omphale, ce poème symphonique dans lequel Saint-Saëns évoque un épisode de la mythologie, Omphale, la reine de Lydie, mais Hercule sous sa botte, c'est le cas de le dire en tout cas, elle le soumet à des travaux de laine assez humiliants et le rouet tourne tandis que Hercule souffre d'amour. Ce rouet musicalement représenté par Camille Saint-Saëns dans cet opus 31, l'Orchestre Philharmonique de New York dirigé par Wilhelm Mengelberg sur France Musique. Thank you. Janvier 1929, Wilhelm Mengelberg dirigeait l'Orchestre Philharmonique de New York dans ce poème symphonique de Camille Saint-Saëns, le Rouet d'Omphale, opus 31 du compositeur français.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
J'ai évoqué tout à l'heure les compositeurs qui ont travaillé avec Mengelberg, main dans la main, comme Gustav Mahler, comme Richard Strauss, qui lui dédie sa vie de héros, Rachmaninoff avec la cantate Les Cloches. Mengelberg a dirigé plusieurs partitions majeures du XXe siècle, comme des partitions de Kodály ou comme ce deuxième concerto de Béla Bartók, qui avait été commandé au compositeur hongrois en 1937 par le violoniste Zoltán Székely, qui va devenir, peu après l'enregistrement qu'on va entendre, le premier violon de l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam. Zoltán Székely crée cette partition le 23 mars 1939 avec le Concertgebouw dirigé par Wilhelm Mengelberg et cette soirée a été radiodiffusée. Il nous en reste une archive ô combien précieuse pour les amateurs de la musique de Bartók, dont votre serviteur. Voici le final de ce concerto numéro 2 de Béla Bartók. Pas épargné ces craquements en 1939, mais c'était un moment historique que la création de ce deuxième concerto de Béla Bartók au Concertgebouw d'Amsterdam en 1939, au moment où Bartók, antifasciste, anti-nazi, s'apprête à quitter l'Europe et où il témoigne de ses troubles et de ses souffrances dans cette partition qui a été créée par son ami Zoltán Székely, qui va devenir premier violon de l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé par Willem Mengelberg. Mengelberg, pendant des années, a dirigé régulièrement la Passion selon Saint-Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Alors certes, cette partition a été ressuscitée en quelque sorte par Félix Mendelssohn au XIXe siècle, mais il n'était pas courant de l'entendre comme on l'entend aujourd'hui. C'est l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam avec le chœur de garçon Zanglutz et le chœur Tonkunst d'Amsterdam qu'on entend dans cette archive, là encore, avec ses craquements d'époque, mais avec un témoignage assez fondamentale de la façon de chanter Jean-Sébastien Bach entre deux guerres. Un extrait de la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach avec le chœur de garçons de Saint-Gloust et le chœur Toonkunst d'Amsterdam et avec l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam dirigé par Willem Mengelberg qui témoigne de la passion de Mengelberg pour ce répertoire. Peut-être cette passion l'a-t-il conduit à l'aveuglement politique et coupable dont il se rend l'auteur à partir de 1939-1941, levant son verre, je le disais, aux victoires de l'Allemagne nazie. Bien évidemment, en 1945, et tout à fait logiquement, je dirais, sa carrière a été interrompue. Après cela, enfin, il y a bien eu d'autres collaborateurs qui n'ont peut-être pas payé le même prix. En tout cas, Mengelberg a payé le prix de ses actes. Mais sa vie musicale a continué pendant la guerre. Alors, que faut-il faire avec ces archives maudites, interdites? Faut-il les censurer, les brûler, les jeter? Toutes ces archives de Radio Paris ou encore ces archives enregistrées en Allemagne en 1942? Eh bien, j'ai décidé de vous les faire entendre tout en soulignant, bien sûr, la condamnation de Willem Mengelberg politique et en soulignant le génie musical qu'il fut et qu'il est resté pendant la Seconde Guerre mondiale, dirigeant notamment l'Orchestre Philharmonique de Vienne en 1942 dans la musique de son compositeur préféré, Ludwig van Beethoven.
Thank you.
1942, l'orchestre philharmonique de Vienne est dirigé par Wilhelm Mengelberg dans l'ouverture Egmont de Ludwig van Beethoven, le compositeur préféré, dit-on, du chef d'orchestre.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Alors voilà des artistes, des archives qui certes peuvent faire froid dans le dos politiquement. Ce sont des concerts donnés en pleine guerre dans des pays occupés comme par exemple la France de 1944 par ceux qu'on peut qualifier de jusqu'au boutistes, de collaborateurs, de collaborationnistes qui mettront en avant plus tard lors de leur procès leur volonté de donner en tout temps et en tout lieu le réconfort de la musique. Voilà un vaste débat. Là encore, ces archives sont là pour nous parler de cette époque et pourquoi pas de la juger, mais aussi d'entendre des artistes exceptionnels comme ceux annoncés à la radio pour les auditeurs de 1944.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez entendre notre concert public, concert qui vous est donné par le Grand Orchestre de Radio Paris sous la direction de Wilhelm Mengelberg, avec le concours d'Alfred Cortot.
Thank you. Oui, il y a quelques notes à côté du clavier. Oui, il fait un froid de canard en ce 20 janvier 1944 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Mais c'est un des plus grands interprètes de la musique de Chopin qu'on entendait là, Alfred Cortot, avec le grand orchestre de Radio Paris dirigé par Wilhelm Mengelberg. Cortot qui sera arrêté en septembre 1944 par les FFI et emprisonné pour acte de collaboration avec l'Allemagne nazie, avec le gouvernement de Vichy. Alors nous allons terminer cette émission en revenant avant la guerre avec l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam, toujours dirigé par Wilhelm Mengelberg et l'un des plus grand violoniste de cette époque, Joseph Sigetti, qui joue ce concerto pour violon d'Ernest Bloch.
Thank you.
9 novembre 1939, les spectateurs du Concertgebouw d'Amsterdam applaudissaient Joseph Szigeti qui jouait le concerto pour violon d'Ernest Bloch avec l'orchestre du Concertgebouw dirigé par Wilhelm Mengelberg. Et vous pouvez voir sur notre site internet un document d'archives où l'on voit et on entend diriger Mengelberg avec une noble gestuelle.
À réécouter sur francemusique.fr.